Abondance, Dieu fait tomber les obstacles. Dieu fait tomber les obstacles. Dans le passage qui vient de lire, on a vu les chaînes tomber. Et ce qui suivait, c'était la libération de disciples. Je vous invite, frères et sœurs, à prendre votre Bible dans Luc chapitre 1. Et regardons à partir du verset 11 à 13. Luc 1, 11 à 13. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'emparait de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Verset 18. Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils. 63. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. 6. L'ange de l'Éternel avait rapporté ce message de la part de Dieu à ce couple, Zacharie et Élisabeth, au début de leur mariage, quand ils étaient encore jeunes, les jeunes mariés, cela ne représenterait pas quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'ils sont jeunes, ils viennent avoir enfant était dans leur projet, ce serait normal et banal, ce ne serait pas vraiment une histoire qui pourra inspirer le titre de notre message, Dieu fait tomber les obstacles. Mais, quand il s'agit d'un couple, d'un vieux couple, un homme qui est vieux, la femme Élisabeth qui est avancée en âge, humainement parlant, nous savons tous qu'en certain âge, un couple ne peut pas vraiment attendre d'avoir un bébé. On n'a pas besoin de chercher trop loin pour saisir cette vérité. Qu'à partir que dans la vieillesse, c'est très difficile pour un couple d'avoir un enfant. La vieillesse et la stérilité constituent un obstacle à l'arrivée d'un enfant dans une famille, chez un couple. Et pour les couples qui ont expérimenté cette situation de ne pas avoir un enfant depuis leur mariage et qui ont prié pendant longtemps. C'est facile à saisir la réalité de cette situation. Et ce couple, Zacharie et Élisabeth, ils ont vécu ça, ils ont prié tout au long de leur vie. Ma femme et moi, nous avons passé le premier 8 ans de notre mariage dans la même situation de prier pour demander au Seigneur de nous donner un enfant. On peut comprendre. Et c'est ça, toute la portée de cette histoire. Le fait que dans le verset 57, Élisabeth enfanta un fils. Gardez en mémoire que Zacharie a confirmé et affirmé: je suis vieux. Ma femme est avancée en âge. C'est la même chose. C'est tout simplement dire, c'est un vieux couple. L'obstacle était là. Mais le fait que cet enfant est né nous montre que Dieu a fait tomber cet obstacle. Ce qui montre que nous avons un Dieu qui peut faire au-delà de ce que normalement nous pouvons imaginer. Normalement, nous pouvons voir. De permettre à un vieux couple, un homme qui est vieux, une femme qui a avancé en âge, d'avoir un enfant, frères et sœurs, je ne sais pas si vous pouvez attribuer à cette situation autre chose que Dieu fait tomber l'obstacle. L'obstacle de vieillesse et de stérilité. Parce qu'Élisabeth était stérile, hein? Ce n'est pas qu'ils avaient décidé de ne pas avoir un enfant. Un couple, peut-être, pour décider de ne pas avoir un enfant, on se demande alors pourquoi ils se sont mariés. Mais ce couple qui a prié, Dieu a exaucé leur prière. Pas tout de suite, mais dans leurs vieux jours. Notre Dieu fait tomber les obstacles. La maladie, frères et sœurs, est aussi constitue vraiment un obstacle à la socialisation. En Israël et au temps de Jésus, à l'époque de Jésus, la maladie de la lèpre était un grand obstacle à la socialisation. Celui ou celle qui a été atteinte de cette maladie était tout simplement exclu de la communauté. Et cette exclusion n'était pas une décision de quelques méchants anciens d'Israël. Car nous lisons dans Lévitique 13, regarde, Lévitique 13, à 46. le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés. Premièrement. Deuxièmement, il aura la tête nue. En troisième lieu, il se couvrira la barbe. En plus, il criera « Impur, impur » aussi longtemps qu'il aura la plaie. Il sera impur. Il est impur. À vrai dire, le passage, la parole insiste, réaffirme, il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Et donc, c'est une maladie qui exclut vraiment celui et celle qui souffre de toute vie sociale, de la société. La stigmatisation sociale, l'exclusion communautaire était le sort qui était réservé à ce malade. En plus, il doit crier chaque fois qu'il sort, impur, impur, ce qui permet les gens, tout le monde s'éloigner de s'écarter. Écarte-toi de moi, je suis impur. On ne peut pas imaginer la vie de quelqu'un qui a été atteint de cette maladie. L'exclusion totale de la vie en société. C'est donc cette maladie est un obstacle important, réel et vrai à l'intégration dans la société. C'est un obstacle. Et ce qui nous mène à poser la question, Dieu peut-il faire sauter cet obstacle selon le titre de notre message? Parce que nous affirmons, Dieu fait sauter les obstacles. Et voilà un obstacle. Dieu peut-il faire sauter cet obstacle qui exclut quelqu'un, les personnes de toute vie sociale? Lisons Luc chapitre 5 pour voir. Luc 5, versets 12 et 14, et ensuite, Monique, je te sollicite pour préparer Luc 17, 11 à 19. Mais Luc 5, d'abord, 12 à 14. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne, mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit avant que cela l'excès de témoignages. Monique, 17, 11, Luc 17, 11 à 19. Merci. Cette guérison opérée par Jésus, frères et sœurs, nous donne une réponse positive à notre question. Oui, notre Dieu fait sauter l'obstacle de la maladie par sa puissance de guérison. Ces lépreux sont guéris par Jésus. Vous avez constaté que ces 10 lépreux, ils étaient tous ensemble parce que ils ne pouvaient pas vivre avec les autres. Donc ils ont quand même trouvé un moyen de vivre ensemble, exclus, vivre hors de la communauté, hors de la ville. Et dans cette condition, dans cette situation où ils étaient, de se voir maintenant guéri, vous pouvez imaginer la joie, ce que cela représente pour quelqu'un qui n'était rien, qui ne pouvait pas vivre avec les autres, qui ne pouvait même pas avoir une vie sociale, qui est l'exclu de la société, qui se trouve libéré, guéri. Dieu fait sauter cet obstacle à l'intégration sociale. Vous avez constaté, vous avez remarqué le processus de cette guérison. Le malade ou les malades crient à Jésus. Ils interpellent Jésus. Et Jésus entend les cris. Non seulement qu'il entend les cris, il voit leur foi. Ces deux éléments, prière et foi, sont importants dans ce processus de guérison. Et la conséquence de cette guérison, c'est que c'est la recommandation que Jésus leur donne. Allez se présenter au sacrificateur. Pourquoi? Eh bien, lisons Lévitique chapitre 14, 1 à 8. Étienne, tu peux lire Lévitique 14, 1 à 8, qui va nous permettre de comprendre, de saisir pourquoi Jésus est aussi leur donne cette recommandation d'aller se présenter au sacrificateur. Lévitique, chapitre 14, 1.
L'Éternel parla à Moïse et dit, Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie et de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur, et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera sept jours hors de sa tente.
Merci. La procédure a été très bien établie. Il a fallu que le sacrificateur confirme vraiment sa guérison. Et ensuite, la purification. C'est pour ça que Jésus l'a renvoyé pour que cette procédure soit respectée. Qui montre aussi que le Seigneur Jésus était très respectueux de toutes les lois qui étaient dans le Torah. C'était une étape importante pour assurer et rassurer, confirmer l'intégration de ces personnes dans la société. Et nous voyons que cette intégration n'aurait pas pu avoir lieu si par les cris à notre Seigneur et par la foi, que la réponse que le Seigneur a donnée pour les guérir, s'ils n'étaient pas guéris, ils seraient toujours les exclus. Mais ils sont maintenant guéris, ils ont rien intégré, ils vivent encore. Ils deviennent les êtres humains, ils deviennent utiles. Parce que pendant la période de cette maladie, ils n'étaient pas utiles. Ils étaient même stigmatisés. Ils ne pouvaient même rien faire. On voit de là, de l'or, la puissance. On comprend pourquoi le pleur était revenu remercier Jésus, lui donnant gloire, le remercier. Parce que c'était tellement important de constater cette nouvelle vie qu'ils avaient. D'autres maladies aussi que nous connaissons aujourd'hui, frères et sœurs, constituent un obstacle à la vie normale de ceux qui en souffrent. Et si Dieu fait tomber l'obstacle de la maladie, on peut se poser la question: pourquoi l'Église ne consacre pas beaucoup de temps à la prière, particulièrement pour les malades? Parce que on voit que la prière et la foi constituent les éléments moteurs qui amènent au Seigneur, qui touchent le Seigneur, qui fait que le Seigneur intervienne pour répondre, pour guérir. Pourquoi, même chez les chrétiens aujourd'hui, on a plus confiance à la psychologie, à la psychiatrie qu'à la prière? On peut se poser la question. C'est plus facile Oui, pour quelqu'un de tout de suite penser aux médicaments, aux médecins, que la prière lorsqu'on est malade. Frères et sœurs, Dieu fait tomber l'obstacle de la maladie. La médecine, le médicament, c'est une bonne chose, hein? Mais ce que j'ai dit, ce qui est désolant, c'est que même chez nous, les chrétiens, on perd cette réaction, cette confiance, ce recours à la prière. Et je peux vous dire que dans les pays où le système de santé n'est pas assez développé, les gens pensent d'abord, premièrement, à la prière lorsqu'ils sont malades. Et ils voient le résultat, les guérisons, et il y a toujours les témoignages de guérison. Nous devons, frères et sœurs, revenir à cette solution fondamentale de notre foi, à cet aspect de notre foi, de faire confiance à Dieu. Même si on va voir un médecin, même si on va à l'hôpital, notre réflexe devait nous porter aussi à faire confiance à notre, à prier. Vous constatez aussi que qu'il s'agit de 10, ils ont élevé la voix pour se faire entendre par Jésus. La Bible aussi nous montre que dans Josué chapitre 6, verset 20, et je vous le dis, Josué 6, 20, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. La ville de Jéricho. C'était très difficile. La prise de la ville de Jéricho. Parce que c'était une ville très bien sécurisée, entourée de murs. Et qu'est-ce qui a fait tomber ce mur? Le grand cri. Le grand cri. Et qu'est-ce que les lépreux ont fait? Ils ont élevé la voix, un grand cri. Il y a donc devant Dieu quelque chose dans l'intensité, dans le volume, dans l'épaisseur de la voix, des cris de ses enfants. Oui. Et cette intensité, cette épaisseur est mieux produite par un nombre important de ceux qui poussent des cris. D'où, frères et sœurs, l'importance du nombre de ceux qui se réunissent pour prier, pour crier à l'Éternel. La prière d'un grand nombre fait pousser la voix, pour pousser dans le volume au cri vers l'Éternel. C'est pour ça, dans notre église, et comme dans beaucoup d'églises aujourd'hui, nous n'avons pas encore saisi cette importance de la réunion, de prière collective d'un grand nombre pour pousser des cris vers l'Éternel. Dieu fait tomber les obstacles par le cri de ses enfants, la prière, la foi. On peut dire que oui, nous nous réunissons, nous prions ici et là. Cette semaine, j'ai reçu une lettre de l'église que j'ai visitée à Jérusalem, du pasteur de cette église. Et j'étais étonné. Ils ont les réunions de quartier ici et là à Jérusalem. Et après le culte, ils ont une chambre haute de prière. Les gens se réunissent pour prier. Et non seulement ça, maintenant, chaque premier samedi de mois, c'est de 20h à 6h le matin qu'ils se réunissent pour prier. L'intensité, on pousse vraiment. Il y a les églises, il y a les endroits où les gens ont compris qu'il faut prier. Frères et sœurs, il nous faut nous réviser. Oui. Car pousser le cri, la prière collective, le volume, l'intensité de prière, ça monte vers Dieu. Dieu attend. Jéricho, le mur de Jéricho n'était pas tombé par quelqu'un. Non, c'était le grand cri qui poussait. Notre Dieu fait tomber les obstacles. L'exemple dans la Bible le plus spectaculaire, c'est la partition de la mer Rouge. Lisons Psaume 106, versets 7 à 12. Psaume 106. Si quelqu'un se trouve, il peut lire. Psaume 106. Merci. Il crut à ses paroles, il chante à ses louanges. Les enfants d'Israël étaient pris dans un piège d'obstacles humainement infranchissables. Devant, il y avait la mer Rouge, derrière, l'armée puissante de Pharaon. Comment vont-ils s'en sortir? Frères et sœurs, comme vous le savez dans cette histoire, Dieu fait sauter cet obstacle. Ils étaient en péril. Mais comme nous disons, quand nous déclarons aujourd'hui que nous avons un Dieu qui fait sauter l'obstacle, nous assistons, nous sommes témoins de la vérité, de la réalité de ces paroles. Car Dieu avait agi miraculeusement. Vous imaginez la mer qui se divise, qui cède la place. Ça, c'est quelque chose d'inhabituel. Ce n'est que Dieu seul qui peut le faire. Et Ce n'est pas qu'ils étaient les anges qui étaient très bien, parce que nous voyons qu'ils étaient rebelles même près de la mer Rouge. Donc lorsque Dieu agit pour sa gloire, parfois il agit en dépit de nous, pour sa gloire. La seule chose qu'il nous faut, frères et sœurs, c'est de lui faire confiance. Et avant de conclure, je ne peux pas ne pas mentionner l'obstacle du péché, qui, dès le jardin d'Éden, sépare l'homme, chacun de nous, de notre Créateur. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 13. Éphésiens 2, il faut garder en mémoire que le péché, depuis très longtemps, depuis le jardin d'Éden, nous a séparés, constitue un obstacle réel et vrai de la réconciliation, de notre relation avec Dieu. Éphésiens 2, verset 1. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangères aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Par le sang de Christ, Dieu a fait sauter, a fait tomber l'obstacle qui nous a séparés de Dieu, de lui. Et la réconciliation que nous avons avec Dieu ne vient qu'autre chose que par l'œuvre de Dieu lui-même, par Jésus, par le sang que Jésus a versé sur la croix. En conclusion, frères et sœurs, puisque nous avons un Dieu qui fait tomber les obstacles, même les obstacles interpersonnels, tout ce qui peut empêcher les uns les autres de s'aimer, de s'embrasser, d'être en paix, dans la joie et tout ça, Dieu, tout obstacle, croyez-moi, frères et sœurs, qu'il soit, quelle que soit la nature de l'obstacle, Dieu peut faire tomber. Dieu fait tomber les obstacles. Pourquoi ne nous faisons pas, même dans notre communauté, comme Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3, 12 à 14. Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais j'ai fait une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si vous avez d'autres prix à chercher, ce moment-là, vous pouvez toujours bloquer Dieu de faire tomber les obstacles, quel que soit l'obstacle. Mais si le prix vers qui que vous cherchez à remporter sur cette vocation céleste, cette vie avec le Seigneur, ce salut en lui, avec lui, à ce moment-là, frères et sœurs, oublions chacun de nous ce qui est en arrière, courons, même si on ne sait pas courir, on peut marcher, même si on marche lentement, mais on marche vers en avant, on va en avant. C'est la seule condition qui nous permet de vivre dans la victoire, de vivre dans la joie de la victoire, de vivre dans l'unité, de vivre dans l'amour, de vivre dans tout ce que nous pouvons imaginer que la parole de Dieu nous enseigne. Frères et sœurs, je vous affirme, Dieu fait tomber les obstacles. Que le Seigneur vous bénisse.